VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir et bienvenue, Jacques Aristide avec vous dans Le Monde Aujourd'hui, en ce jeudi 16 décembre 2021, une demi-heure d'actualité et de magazine que vous propose VOA Afrique à la une de l'actualité ce soir. L'ONG Human Rights Watch accuse les services de sécurité maliens d'avoir torturé de présumés auteurs d'une tentative de coup d'État contre le pouvoir militaire. En République démocratique du Congo, le gouvernement a déclaré la fin de la 13e épidémie d'Ebola. En Libye, démonstration de force de groupes armés à Tripoli, la capitale, à un peu plus d'une semaine des élections. L'OTAN rejette l'exigence de Moscou de renoncer à l'adhésion de Kiev. Et puis, comme à l'accoutumée, vos rendez-vous avec l'économie et les sports d'environ 10 minutes. Human Rights Watch accuse les services de sécurité du Mali d'avoir torturé 6 hommes accusés d'avoir préparé un coup d'État contre le pouvoir dominé par les militaires. L'ONG affirme qu'ils leur ont infligé des chocs électriques et des simulations de noyade. Les détails avec Eric Manirakiza.
Human Rights Watch identifie les 6 hommes comme étant le colonel-major Kassoum Goïta, l'ancien conseiller présidentiel Kalilou Doumbia, le commissaire principal de police Mustapha Diakité, l'adjudant-chef Abdoulaye Balo, l'homme d'affaires Sandy Ahmed Saloum et Issa Samake, sans plus de précision. Outre les impulsions électriques sur les extrémités du corps, le torse et les parties génitales, les détenus ont été roués de coups à des degrés divers dans des lieux de détention secrets de Human Rights Watch dans un communiqué. Des services de sécurité leur ont injecté des substances inconnues, les ont maintenus dans des positions douloureuses, se sont livrés à des simulacres d'exécution, les ont privés de sommeil et maintenus à l'isolement. L'ONG cite pour source des avocats et des proches, d'autres défenseurs des droits humains et des diplomates étrangers. Aucun commentaire n'a été obtenu auprès des autorités maliennes.
Deux organisations internationales de défense des droits appellent les autorités guinéennes à agir immédiatement pour élucider une série récente de viols dans un pays où de tels crimes demeurent très souvent impunis. D'après Amnesty International et la Fédération internationale pour la planification familiale, 6 filles âgées de 3 à 16 ans et une femme ont été agressées sexuellement et certaines ont été violées entre le 25 novembre et le 2 décembre dernier, deux des filles sont décédées, disent-elles, en ajoutant que plus de 331 cas de viol ont été signalés depuis le début de l'année en Guinée. Le ministre congolais de la Santé a déclaré à Kinshasa aujourd'hui la fin de la 13e épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo après 42 jours sans nouveau cas détecté à Beni. Les précisions avec Ginny Kapumbu-Villa.
Le docteur Mbungani explique que l'épidémie circonscrite dans la zone de santé de Beni a duré au total 2 mois et 9 jours depuis sa réapparition le 8 octobre. Il y a eu en tout 11 cas, dont 8 confirmés et 3 probables, avec au total 9 décès, soit un taux de mortalité de 82%. Plus de 50% de personnes infectées étaient des enfants de moins de 5 ans et la détection a été tardive à cause de la grève du personnel de santé, a déploré le ministre. Sur les 3 malades qui ont bénéficié de soins dans un centre de traitement Ebola, un seul décès a été signalé, soit un taux de guérison de 66,7%. Deux traitements approuvés fin 2020 par l'Agence américaine des médicaments ont permis de guérir 2 malades sur 11, un cocktail de 3 anticorps commercialisé sous la marque Ebanga. 1000 doses du vaccin anti-Ebola, RVSV, Zebov, livrées 5 jours après l'apparition du premier cas, ont permis d'interrompre la chaîne de transmission par la vaccination des contacts avec les malades.
La situation en Éthiopie, selon Amnesty International et Human Rights Watch, des combattants de la région Amhara, alliés de l'armée éthiopienne, arrêtent et tuent des habitants tigréens dans le cadre d'une nouvelle vague d'affrontements ethniques liés à la guerre. Les deux ONG de défense des droits humains ont conjointement établi que ces combattants ont en novembre et décembre dernier détenu, torturé et affamé des civils, dont des adolescents et des personnes âgées dans l'ouest du Tigré. Un porte-parole de la région Amhara n'était pas disponible dans l'immédiat pour des commentaires. En Libye, des groupes armés se sont déployés dans plusieurs quartiers de la capitale, Tripoli, la nuit dernière, dans ce qui s'apparente à une démonstration de force après le limogeage d'un haut responsable militaire. Davantage avec Claire Morin-Gibour.
Ce déploiement intervient quelques heures après la prise de fonction du général Abdelkader Mansour comme nouveau commandant militaire de la région de Tripoli, a indiqué un responsable militaire qui a requis l'anonymat. Cette source précise que ces groupes armés déployés autour des sites sensibles de la capitale sont sous l'autorité de différentes forces militaires et sécuritaires. Hier, le Conseil présidentiel, plus haute autorité de l'exécutif et officiellement commandant suprême des armées, a limogé le général Abdelbasset Marouane, titulaire de ce poste depuis plusieurs années, pour le remplacer par le général Mansour. La situation sécuritaire demeure très précaire en Libye et Tripoli est sous le contrôle d'une myriade de groupes armés affiliés au ministère de la Défense, un portefeuille sans ministre, et de l'intérieur au sein du gouvernement intérimaire. Un processus de paix parrainé par l'ONU est en cours et l'élection présidentielle est prévue pour le 24 décembre.
Le navire de secours en mer de SOS Méditerranée a recueilli aujourd'hui 114 personnes, dont 10 femmes et 2 nouveau-nés, qui se trouvaient sur une embarcation en détresse au large de la Libye pour tenter de rejoindre l'Europe. Malgré une insécurité persistante, la Libye demeure un important point de passage pour des dizaines de milliers de migrants cherchant chaque année à gagner l'Europe. Le Mozambique, en proie à des violences djihadistes depuis plus de 4 ans, a connu moins d'attaques depuis le début de l'année, d'après le président Filipe Nyusi, qui salue l'aide militaire du Rwanda et de pays voisins. La province du Cabo Delgado a connu 52 attaques contre 160 l'an dernier, indique le chef de l'État, lui-même originaire de cette région. Il a évoqué la capture de combattants parmi les groupes armés. Depuis 2017, plus de 3 500 Mozambicains ont été tués et près de 820 000 autres ont fui leur village. La Côte d'Ivoire a réceptionné plus de 2 millions de doses de vaccins Johnson & Johnson offertes par l'Espagne et l'Italie via le système COVAX qui vise à fournir des vaccins anti-Covid. Annonce du ministère ivoirien de la Santé aujourd'hui, plus de 10 millions de doses de vaccins ont été fournies à la Côte d'Ivoire dans ce cadre depuis le 1er mars dernier. Pour le moment, l'Afrique dépend principalement du mécanisme international COVAX et de dons qui arrivent au compte-gouttes.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'OTAN oppose une fin de non-recevoir à Moscou sur l'exigence de renoncer à l'adhésion de l'Ukraine. L'Alliance de pays d'Europe et d'Amérique du Nord continue de faire état de l'importance de son partenariat avec Kiev. Le point avec Abdourahman Dia.
Nous ne ferons aucun compromis sur le droit de l'Ukraine à choisir sa propre voie. Nous ne ferons aucun compromis sur le droit de l'OTAN à protéger et à défendre tous les alliés. Et nous ne ferons aucun compromis sur le fait que l'OTAN a un partenariat avec l'Ukraine, a affirmé le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, après une rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky au siège de l'Alliance à Bruxelles. Pour sa part, le président ukrainien a déclaré que depuis le début de la guerre en 2014, la Russie a poussé l'Ukraine vers l'OTAN et aujourd'hui, elle est en train de paver le chemin difficile de son adhésion. Moscou a remis hier mercredi à une responsable américaine une liste de propositions sur les garanties juridiques réclamées aux alliés. Les Occidentaux soupçonnent la Russie de préparer une nouvelle invasion de l'Ukraine et de déployer des forces considérables à leurs frontières communes. L'OTAN avait promis à l'Ukraine et à la Géorgie leur intégration au sein de l'organisation en 2008, malgré les mises en garde de la France et de l'Allemagne. L'entrée d'un nouveau membre doit être approuvée à l'unanimité, a rappelé Jens Stoltenberg.
La faim progresse dans le monde arabe. D'après l'ONU, l'année dernière, 69 millions de personnes dans cette partie de la planète souffraient de malnutrition. Un tiers des 420 millions d'habitants n'ont pas accès à une alimentation adéquate, indique la FAO. Les deux pays les plus touchés demeurent la Somalie et le Yémen. Le gouvernement français va rétablir ce samedi l'obligation de motifs impérieux pour les voyageurs venant et se rendant du Royaume-Uni. La validité des tests au départ du Royaume-Uni est réduite de 48 heures à 24 heures et un système d'isolement à l'arrivée en France est instauré. Confronté à une flambée des contaminations liées au variant Omicron, le Royaume-Uni a fait état hier de plus de 78 000 cas positifs en 24 heures, du jamais vu depuis le début de la pandémie en 2020. L'Agence européenne des médicaments a approuvé aujourd'hui deux nouveaux traitements contre le Covid-19. Le traitement par anticorps monoclonal de GlaxoSmithKline, de même qu'un médicament immunosuppresseur, le Kineret, déjà autorisé dans l'Union européenne pour le traitement de diverses affections inflammatoires. Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité en Afrique et ailleurs dans le monde ce soir. Et maintenant, un résumé des nouvelles économiques. C'est la Minute Éco avec Eric Manirakiza ce soir.
Le gouvernement béninois souhaite mobiliser un peu plus de 20 milliards et demi de dollars pour les 5 années à venir en vue de financer son programme de développement. Selon un communiqué du Conseil des ministres tenu le mercredi 15 décembre, ce projet vise à booster la transformation économique et sociale du pays. Il est dénommé « Programme d'action du gouvernement PAGE pour la période 2021-2026 ». La Banque centrale américaine s'est montrée optimiste mercredi sur la croissance aux États-Unis et a annoncé le retrait accéléré de son soutien à l'économie. Cette diminution du soutien monétaire s'achèvera en mars et non en juin, comme prévu initialement. La Fed se prépare désormais à relever ses taux d'intérêt dès l'année prochaine pour tenter de contenir l'inflation vertigineuse. Un groupe de 45 pays dont l'Union européenne mais pas la Chine ni les États-Unis sont convenus d'éliminer progressivement les subventions inefficaces aux combustibles fossiles qui incitent au gaspillage et d'établir un calendrier pour y parvenir. Cet engagement fait écho au pacte climatique de Glasgow adopté en novembre lors de la COP26 et 71 pays dont les États-Unis et la Chine appellent à intensifier les discussions pour élargir les possibilités de commerce écologiquement durable.
Sans plus tarder, un tour d'horizon de l'actualité sportive avec au micro Élisée Oumpatine. Bonsoir.
Oui, bonsoir. La finale de la Coupe arabe des nations de la FIFA, tournoi servant de répétition à la Coupe du Monde 2022 sera 100% africaine avec la Tunisie et l'Algérie ce samedi à Doha. Les Tunisiens ont battu de justesse les Égyptiens 1-0 grâce à un but contre son camp d'Amro El Soulia en toute fin de match. Ça a été plus spectaculaire dans l'autre demi-finale où au bout de la nuit, les Algériens ont défait les Qataris, victoire 2-1 à l'issue de 18 minutes de temps additionnel. Les Fenais plus que jamais favoris pour remporter la première édition de cette compétition à moins de 4 semaines du coup d'envoi du plus grand événement foot africain, la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera au Cameroun dont ils sont tenants du titre. À noter que le secrétaire général de la CAF, Ferron Mossengo, qui séjourne actuellement dans le pays, exhorte toutes les parties à travailler jour et nuit afin d'assurer que tout soit en place pour le match d'ouverture du 9 janvier 2022. Il est également dans le pays de Samuel Eto'o pour soutenir l'équipe de la CAF qui est déjà sur place pour travailler avec le comité local d'organisation et le gouvernement camerounais à la réalisation de l'événement. Il a aussi été question de l'approche sanitaire et les protocoles Covid-19 à l'approche du tournoi. Une réunion a même eu lieu avec le ministre de la Santé afin de régler l'essentiel du détail relatif à la compétition. La CAF et le gouvernement camerounais ont trouvé un terrain d'entente sur la gestion de la compétition au moment où certains clubs européens menacent de ne pas laisser leurs joueurs aller au Cameroun. Une menace sur papier adressée par l'ECA, l'association des clubs européens à la FIFA, l'instance suprême du foot qui, selon elle, manque un protocole sanitaire clair pour lutter contre la propagation du Covid-19. Ces grands clubs évoquent la possibilité tout simplement de ne pas libérer leurs joueurs. L'organisation ajoute que le chevauchement de la CAN avec les matchs de compétition nationale dans certains pays d'Europe est ingérable. On reste au Cameroun avec la qualification pour la Basket Africa League, la zone ouest qui a déjà rendu ses deux premiers qualifiés. Il s'agit des FAB du Cameroun et du SLAC de la Guinée qui ont validé leur billet pour la phase finale après avoir remporté leur demi-finale respectivement contre Foucage de la RDC 70-56 et les Malais de la S-Police 81-78. Le troisième ticket qualificatif se jouera entre les Congolais et les Maliens.
Merci Élisée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Continuez d'écouter Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Merci de votre fidélité. Jacques Aristé est toujours avec vous. Et maintenant, nous vous proposons la tranche magazine. Reprise ce matin à Abidjan du dialogue politique entre l'opposition et le pouvoir. Le chef du gouvernement ivoirien, Patrick Achi, a appelé l'opposition à maintenir le climat social apaisé qui règne actuellement en Côte d'Ivoire, marqué par les violences électorales de la présidentielle d'octobre 2020, lesquelles avaient fait 85 morts et 500 blessés. Avant cette reprise, les précédentes étapes du dialogue avaient décrispé le climat politique. À l'annonce, il y a quelques jours, de la reprise de ce dialogue, les partis politiques ont fondé beaucoup d'espoir sur ces échanges entre membres de la classe politique. À Abidjan, le reportage de Delphine Louboïse.
Cadre de concertation entre le pouvoir et l'opposition ivoirienne. Le dialogue politique redémarre ce 16 décembre, sauf au changement de dernière minute. Les précisions du ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie et porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly.
À ce sujet, des courriers ont été adressés aux différents membres des partis politiques. Chaque responsable peut se faire accompagner de deux personnes. La date, c'est le 16 décembre, à la primature. Une fois que le dialogue sera engagé, les acteurs dans la salle pourront définir le reste des modalités.
Comment les chapelles politiques ont accueilli cette annonce? Pour le PDCI, parti septuagénaire, il est temps d'ouvrir tous les dossiers pour un dialogue inclusif et aller à une paix durable. Professeur Maurice Kakoudjikawe, secrétaire exécutif en chef du PDCI.
Le PDCI se réjouit que le gouvernement puisse ouvrir la reprise des dialogues politiques avec tous les acteurs politiques. Le moment est venu d'ouvrir tous les dossiers, de discuter librement, d'aller à des compromis sur certains points pour que le climat politique reste le plus apaisé possible et pour que la réconciliation soit une réalité pour une paix durable pour le développement de la Côte d'Ivoire.
Le FPI, qui se félicite de cette annonce, dit souhaiter vivement qu'elle permette de trouver les solutions appropriées aux divergences et incompréhensions qui débouchent souvent sur des violences. Pascal Afim-Jessan, président du FPI.
C'est une très très bonne chose. Nous avons besoin en Côte d'Ivoire d'un consensus sur la vie politique et sociale du pays. Et donc, nous irons à ce dialogue avec des propositions concrètes dans un esprit constructif en espérant que ce dialogue permettra à la Côte d'Ivoire de faire des pas décisifs sur la voie de la réconciliation nationale, de la paix et de la cohésion sociale.
Pour cette rencontre, les attentes des populations sont grandes. Des personnes interrogées dans les rues à Abidjan sont toutes unanimes. Ces genres de rencontres peuvent briser le mur de méfiance entre l'opposition et le parti au pouvoir.
Nous voulons que l'objectif de chacun soit atteint.
Si ils se mettent ensemble pour dialoguer, pour discuter, je crois que c'est mieux pour tous les citoyens ivoiriens.
Nous voulons de cette rencontre que ça soit pour de bon, pour que le pays va de l'avant.
Et la société civile dit attendre beaucoup de cette rencontre. Delphine Bouise, Abidjan, VOA, Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Les troupes françaises ont quitté leur base militaire à Tombouctou, au Mali, où elles étaient déployées depuis la libération de la région des groupes djihadistes en 2013. Les forces françaises se sont progressivement retirées de la zone, malgré les combats toujours en cours avec des djihadistes qui menacent la stabilité de la région. À Tombouctou, des habitants expriment leur malaise face au départ des troupes françaises. Reportage d'Annie Risenberg, récit Claire Morin-Gibourg.
Mardi, les troupes françaises ont quitté leur base militaire à Tombouctou dans le cadre d'une réorganisation de l'opération Barkhane annoncée par le président français Emmanuel Macron. Les bases de Kidal et Tessalit dans le nord du Mali ont été remises à l'armée malienne respectivement en octobre et en novembre. Les troupes françaises ont installé une base à Tombouctou pour la première fois lorsque la ville a été libérée en 2013 des militants islamistes. Le président français de l'époque, François Hollande, s'est rendu à Tombouctou et a été chaleureusement accueilli par les habitants. C'est sur une place publique, près de la mosquée Sankore, que l'historien et enseignant de l'Institut Ahmed Baba, Salem Ould El Hadj, revient sur ce qu'il a vécu à la libération de la ville de l'emprise des djihadistes.
On en a besoin et vous avez vu que la population l'a accueilli dans un enthousiasme populaire et une ferveur sans égal. C'est vrai, moi j'étais à Bamako. Grâce à ça, je suis revenu à Tombouctou.
Depuis 2013, le Mali a connu deux autres coups d'État. La violence et les assassinats ont augmenté et se sont déplacés plus au sud, vers le centre du pays. De grandes manifestations à Bamako ont appelé au départ des troupes françaises, le sentiment populaire étant favorable à une éventuelle intervention russe. Mohamed El Bachir, président du conseil municipal de la jeunesse de Tombouctou, affirme que le retrait des troupes de Barkhane rendra la région moins sûre.
Bon, c'est pas les mêmes sentiments, parce que les gens de Bamako ne vivent pas ce que nous vivons ici à Tombouctou. C'est que nous vivons ici à Tombouctou, les gens de Bamako ne le vivent pas, que les gens de Bamako viennent s'asseoir ici et nous allons retourner à Bamako et qu'ils demandent le départ de la force Barkhane, là, ils vont comprendre. C'est ça la réalité.
La France a progressivement retiré ses troupes du nord du Mali et les a transférées à Gao, qui servira de base de l'opération Barkhane. D'ailleurs, un convoi de l'armée française parti de Côte d'Ivoire a eu beaucoup de mal à traverser le Burkina, puis le Niger, pour arriver à Gao. Le président Emmanuel Macron est attendu lundi au Mali. Il a déjà annoncé une réduction des effectifs de Barkhane qui va passer de 5000 à 3000 soldats. Le général Étienne Dupérou, représentant de Barkhane au Mali, affirme que la remise de la base de Tombouctou n'est pas un abandon.
Et puis c'est finalement le but de l'opération Barkhane, c'est de permettre en fait au Mali de prendre en main son destin à travers des forces, après une phase de préparation, après une phase de montée en puissance, après une phase d'entraînement commun, et toujours avec un petit peu, toujours avec du partenariat, mais qui s'exercera différemment avec une présence qui est moins physique mais qui est tout autant réelle par des moyens adaptés.
Lors d'une cérémonie symbolique, le drapeau français a été abaissé, le drapeau malien hissé. Les autorités militaires maliennes n'ont fait aucun commentaire et les journalistes ont été invités à quitter la cérémonie avant que leur commandant ne parle aux troupes maliennes. Et pour la dernière fois, les blindés français quittent la base et à l'aéroport, on a pu voir des troupes françaises monter à bord d'un avion militaire à destination de Gao. Le sort de Tombouctou repose désormais entre les mains de l'armée malienne.
Le gouvernement camerounais et la Confédération africaine de football ont réagi ce jeudi à la menace de non-libération des joueurs africains qui évoluent dans les clubs européens pour cause de la crise sanitaire. C'était au cours d'une conférence de presse conjointe tenue à Yaoundé, soit un jour après le courrier adressé à la FIFA dans lequel l'Association européenne des clubs invoque le contexte sanitaire qui va empêcher la participation des footballeurs africains à la Coupe d'Afrique des Nations. De Yaoundé, le compte-rendu de notre correspondant Emmanuel Julentap.
Face aux journalistes, le ministre de la Santé publique a balayé du revers de la main l'argument de l'inexistence d'un protocole sanitaire pendant la CAN, tel que souligné par l'Association des clubs européens pour justifier la non-libération des internationaux africains. Malachi Manaouda, ministre de la Santé publique.
Au niveau de l'entrée sur le territoire camerounais, il est exigé un test PCR d'au moins de 72 heures négatif à l'arrivée, un test TDE antigénique réalisé sur place à l'entrée pour spectateurs, une vaccination anti-Covid pour les joueurs et officiels.
La CAF est même allée plus loin au sujet des spectateurs lors de la CAN pour faire taire la polémique soulevée par l'Association des clubs européens. Véron Moussengo Oban, secrétaire général de la CAF.
Pour nous, vous voulez entrer au stade, il faut être vacciné. Vous ne voulez pas être vacciné, c'est votre droit, vous regardez à la télé. Il peut y avoir soit des tests rapides, soit des tests PCR, on doit discuter. Mais ça, il ne faut pas que péter le flanc après qu'ils viennent dire que la CAF et le gouvernement ont créé des clusters. Ça, il ne faut pas. On n'a pas le droit de leur donner cette occasion.
Depuis la survenue du coronavirus, le Cameroun a déjà abrité diverses compétitions internationales sans que cette pandémie ne cause de graves dégâts au pays. Le ministre des Sports n'imagine pas une CAN sans les internationaux africains. Narcisse Moulekombi.
Le vœu ardent de la jeunesse africaine est de voir au Cameroun tous les talentueux footballeurs africains, notamment ceux évoluant dans les prestigieux championnats européens, asiatiques et américains. De voir tous ces talents prendre part sans aucune discrimination, sans aucune exclusion, ni manœuvre d'ostracisme ni récrimination à une compétition qui est la leur.
Au cours de la conférence de presse, Véron Moussongo Oban, le secrétaire général de la CAF, s'est prononcé sur la menace de non-libération des joueurs africains par l'Association des clubs européens.
Les joueurs ont des contrats individuels avec leurs clubs. En plus, la libération des joueurs est réglée par un règlement de la FIFA. Si l'on parlait des problèmes de Covid, les chiffres sont là, c'est les chiffres qui viennent de l'OMS, Genève, donc... Quand on regarde 3%, hein, quand on a plus d'un milliard, l'inquiétude ne doit pas être ici.
La CAF a par ailleurs démenti la rumeur de report de la CAN 2021. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Congo-Brazzaville, les mélomanes continuent de saluer l'inscription de la rumba au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. La rumba, dansée sur les deux rives du fleuve Congo, est une musique qui unit toutes les générations et elle est beaucoup appréciée hors de Brazzaville et de Kinshasa. Le reportage de Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville. Rumba.
C'est sous cette musique composée par l'artiste Johnson, philosophe de Super Kolomboka, que les deux Congos ont porté le dossier de la rumba devant l'UNESCO. Le musicien exprime sa joie.
Voilà, donc inscrire la rumba congolaise dans la liste du patrimoine mondial de l'humanité, c'est une fierté, un honneur pour les peuples d'Afrique, parce que la rumba congolaise a conquis non seulement l'Afrique centrale, mais toute l'Afrique et le monde.
La rumba est une musique ancienne qui se danse à deux, inséré contre l'autre. Elle raconte la vie en société. C'est cette histoire que l'analyste sociale Gakoso Obambe souhaite partager avec le monde entier.
Et ça peut donner aussi l'occasion effectivement d'organiser des débats, des colloques, des séminaires sur l'histoire de la rumba, le rôle que la rumba a eu à jouer dans les indépendances, sur les deux rives, et la manière dont la rumba effectivement a pénétré nos familles, au point que c'est quelque chose d'incontournable. Partout où l'on va, on ne peut pas s'en passer.
Le chroniqueur musical Priva Turbis Masanga estime que plusieurs musiciens auraient pu être aujourd'hui heureux d'apprendre cette reconnaissance.
Mais je crois que ça aurait fait plaisir à des artisans qui ont travaillé pour le rayonnement de la rumba, comme Samba Diop, Fernand Mabala, Saint Lazare, bien entendu Orlus Mabélé et bien d'autres artistes.
Pour l'universitaire Inès Févillier, la rumba est une expression de lutte politique et sociale dans les deux Congos.
Alors quand vous entendez une chanson comme Indépendance, Cha Cha Tozoui, Odi Panda, Cha Cha Toubakiri, ça veut dire que la rumba a été même politique. Elle a accompagné la politique de nos pays, elle a accompagné l'indépendance. Donc ce n'est pas que festif, ce n'est pas que culturel, mais c'est aussi politique, c'est beaucoup de choses.
Maintenant que la rumba est mise sur orbite, il va falloir bosser dur pour qu'elle soit indéfiniment inscrite comme patrimoine mondial. Le mélomane Alain Akwala appelle les musiciens à continuer à écrire des beaux et profonds textes.
Nazali mwana Congo na lingi mboka na ngai na kokende wapi.
Ça c'est l'orchestre national du Congo lorsque ils ont représenté notre pays au Festac en 1978 à Lagos. C'est que il va falloir maintenant que les artistes musiciens fassent un grand effort dans la composition de leurs chansons, qu'on retrouve justement des textes d'antan où à travers une chanson il y avait un message.
À Brazzaville comme à Pointe-Noire et sur l'ensemble des deux Congos, la rumba demeure la musique de référence et de l'unité. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Et voilà, Le Monde aujourd'hui prend fin ici. Merci à toute la rédaction et à toute l'équipe de la production. L'info continue sur notre antenne et en ligne sur voafrique.com. Merci chers amis fidèles de la VOA de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'était Jacques Aristide au micro. Je vous souhaite une très belle soirée. À très bientôt.